Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast pour apprendre le français et découvrir la culture française. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Retrouvez la transcription de l'épisode, la fiche de vocabulaire expliquée, le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque année le 8 mars. Il s'agit d'une journée d'action, de mobilisation et de sensibilisation destinée à la lutte pour le droit des femmes. L'objectif, faire le bilan sur la situation des femmes dans le monde, fêter les acquis, mais surtout préparer l'avenir des futures générations de femmes. Donc, différents sujets sont abordés pendant cette journée. Les droits politiques, pour permettre une égalité juridique entre les femmes et les hommes, mais aussi les droits du travail et les droits économiques pour garantir l'égalité des chances face à l'emploi, la carrière et l'éducation. On parle aussi des droits de la santé pour militer pour l'égalité face aux soins. Alors, cette journée du 8 mars trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois à Copenhague en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Des journées de mobilisation se déroulent partout en Europe les années suivantes. Mais c'est le 8 mars 1917 qui fait entrer cette date dans l'histoire avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui marque le début de la Révolution russe. Et c'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme, oui, ça a existé, que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. La France a ensuite reconnu officiellement cette journée en 1982. Donc c'est assez récent, hein? Aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans le monde entier. Mais le but de la journée varie, change selon les pays. Dans certains pays, comme en France, c'est une journée de protestation. Tandis que dans d'autres pays, c'est un moyen de promouvoir l'égalité des sexes. Arménie, Biélorussie, Cambodge, Cuba, Géorgie, Laos, Mongolie, Russie, Ouganda, Ukraine. Quel est selon vous le point commun entre tous ces pays? Eh bien, la journée y est reconnue comme une fête nationale officielle. Et dans certains pays comme l'Albanie, la Macédoine ou l'Ouzbékistan, elle a été combinée avec la fête des mères dans le but de souligner l'importance des femmes en tant que mères. Bon, en Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé pour l'occasion. Et la Festa della Donna, pardon les Italiens pour la prononciation, c'est l'occasion pour les Italiens d'offrir des fleurs de mimosa aux femmes de leur vie. Alors, attention à ça, parce que du point de vue d'une femme française que je suis, le 8 mars, c'est une journée de lutte. On fait le constat de toutes les inégalités et de tout le chemin qu'il reste encore à parcourir. Et il y a du travail. Et je sais que sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages ce jour-là pour dire « Bonne fête, madame! Bonne journée de la femme !» avec des images de fleurs, comme si c'était mon anniversaire. Et je sais que c'est gentil. Et je sais que l'intention est bonne et je sais qu'il y a une dimension interculturelle et une incompréhension interculturelle. Mais pour les Français, et en particulier les Françaises, ce n'est pas une journée particulièrement gaie, joyeuse, le 8 mars. Moi, le 8 mars, je ne célèbre pas le fait d'être une femme, vous voyez ? Donc, s'il faut envoyer un message à une femme ce jour-là, ce serait plutôt « Continuons de lutter pour les droits des femmes et pour l'égalité des genres. » Vous voyez ? Alors, pour certains, la Journée internationale des droits des femmes est une bonne façon de mettre un coup de projecteur sur la situation des femmes dans le monde. Elle permet aussi de se rassembler pour trouver des solutions, pour faire bouger les choses au-delà du 8 mars. Mais pour d'autres, c'est un problème bien trop important pour qu'on puisse le résumer et le régler en une seule journée, sans parler de ceux qui ne voient pas pourquoi les droits des femmes devraient évoluer. Eh oui, ça existe. Ce qui est sûr, c'est que Olympe de Gouges aurait trouvé la Journée internationale des droits des femmes indispensable. Mais savez-vous qui c'est ? Olympe de Gouges est une femme admirable du XVIIIe siècle, complètement en avance sur son temps. Forte, indépendante, qui a beaucoup lutté pour les droits des femmes. Comme beaucoup de femmes dans l'histoire, elle a longtemps été oubliée, alors qu'elle a une vie incroyable. Et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des premières féministes françaises. Olympe de Gouges est née dans une famille bourgeoise le 7 mai 1748, dans le sud de la France. Olympe, c'est le prénom, de Gouges, c'est le nom. Mais c'est un prénom et un nom qu'elle a choisi. Oui, ce ne sont pas ses prénoms et noms de naissance. Quand elle est née, elle s'appelait Marie Gouze. Oui, elle va changer de nom, je vais vous expliquer. Marie Gouze se marie à 17 ans. Elle a un fils et son mari meurt peu après. Elle devient donc veuve très jeune. C'est important que vous le sachiez parce que, justement, son statut de veuve lui permet de bénéficier du statut accordé aux femmes mariées, donc d'avoir les avantages d'une femme mariée par rapport à une femme qui ne le serait pas, mais sans avoir à subir une tutelle maritale. Ouh là là, il y a du vocabulaire. La tutelle maritale, ça veut dire que les femmes étaient privées de leurs droits juridiques. Elles étaient soumises à l'autorité du père ou du mari. En un mot, elles étaient donc dépendantes, soit du père pour les femmes non mariées, soit du mari pour les femmes mariées, d'un homme dans tous les cas. Là, Olympe de Gouges, qui s'appelle alors Marie Gouze, vous suivez, est veuve. Donc, elle n'est dépendante de personne. Et vous allez voir que, pour elle, c'est un grand avantage dont elle va se servir. En 1770, elle a 22 ans et Marie Gouze décide de s'installer à Paris où habite sa sœur. C'est à ce moment-là qu'elle décide de changer de nom et de devenir Olympe de Gouges. Elle choisit son prénom. Elle choisit son nom. Déjà, ça vous donne des indications sur sa personnalité. Mais attention, vous allez voir, vous n'êtes pas prêt. En fait, elle refuse de porter le nom de son défunt mari, de son mari décédé, donc mort. Elle déclare d'ailleurs que l'homme auquel elle a dû se marier l'a dégoûtée et qu'elle ne l'a jamais aimé. À Paris, elle s'installe près du Palais Royal, c'est dans le centre de la capitale. Et elle profite des boutiques, des cafés et des restaurants. Elle aime aussi aller au théâtre et à l'opéra. C'est une femme libre. Elle ne va jamais se remarier. Elle fréquente les salons littéraires où elle rencontre les philosophes, les écrivains, les penseurs, les hommes politiques et les artistes de l'époque. Et ça va avoir un grand impact. Parce que, attention, Olympe de Gouges n'est pas une femme qui ne pense qu'à se divertir en profitant de son statut privilégié. Non. Olympe de Gouges est une femme de lettres et une femme politique. Oui. Inutile de vous dire qu'à l'époque, cela ne courait pas les rues et qu'elle est unique en son genre. Vous allez voir. Son premier combat est son engagement contre l'esclavage. Au XVIIIe siècle, de nombreuses familles nobles gagnent de l'argent grâce à l'exploitation des esclaves en Amérique. Les esclaves vivent, comme vous le savez, dans d'horribles conditions et n'ont aucun droit, aucune liberté. Et je vous ai dit qu'Olympe de Gouges aimait le théâtre, non ? Eh bien, elle devient comédienne et elle crée même sa troupe de théâtre où joue son fils, d'ailleurs. Et en 1785, elle a 34 ans et nous sommes quelques années avant la Révolution. Et en fait, à l'époque, beaucoup d'idées se diffusent grâce au théâtre. Et cette année-là est importante, 1785, parce qu'Olympe de Gouges publie une pièce de théâtre, Zamor et Mirza, ou L'heureux naufrage. Bon, ça c'est le titre. Et en fait, dans cette œuvre, elle critique les conditions de vie des esclaves noirs et elle critique la politique esclavagiste menée par le roi Louis XVI. Attention, à cette époque, interdit de critiquer le roi et la politique du roi, vous imaginez bien. Écrire une telle pièce est même dangereux pour Olympe de Gouges. On ne dit pas ce qu'on veut à l'époque. Il y a une vraie censure. La représentation de cette pièce de théâtre a bien lieu, sachez-le. Et elle fait scandale. Olympe de Gouges reçoit des menaces de mort pour avoir écrit cette pièce. Oui, mais cela ne l'arrête pas, hein. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Olympe de Gouges est une rebelle ? Absolument. Ce sera même une révolutionnaire, vous allez voir. C'est une femme très intelligente, éduquée et courageuse. En fait, à cette époque, c'est presque impossible pour une femme d'être indépendante, de ne pas dépendre d'un homme. Les femmes ont très peu de marge de manœuvre à cette époque. Et celles qui tentent d'être un peu plus libres sont souvent rejetées par la société, elles sont marginalisées. En fait, c'est très difficile de survivre comme femme indépendante à cette époque. Et oui, le destin des femmes est complètement lié à celui des hommes. Et c'est dans ce contexte-là qu'Olympe de Gouges écrit d'autres pièces de théâtre, mais aussi des romans et des essais dans lesquels elle développe sa pensée politique. Elle se positionne donc contre les injustices, contre les discriminations sociales et politiques. Elle plaide, donc elle se positionne pour l'instauration des droits pour les ouvriers au chômage, imaginez à l'époque. Elle plaide pour l'abolition de l'esclavage et pour l'abolition de la peine de mort. L'abolition signifie la fin. Donc, elle se bat pour la fin de l'esclavage et pour la fin de la peine de mort. Bon, vous imaginez bien qu'elle se fait beaucoup d'ennemis. Elle bouscule les codes établis, elle propose des idées complètement nouvelles pour l'époque, complètement avant-gardistes. Elle défend aussi la création de maternité, le droit au divorce, oui, et même la libre recherche de paternité et la reconnaissance des enfants illégitimes. Et défendre les droits des femmes devient une évidence, un combat, une véritable raison de vivre pour Olympe de Gouges. Olympe de Gouges va vivre la Révolution française. C'est une femme révolutionnaire, comme je vous l'ai dit. Et c'est la première femme, au moment de la Révolution, à réclamer des droits identiques pour les hommes et les femmes. Parce que vous connaissez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une déclaration qui a inspiré de nombreuses constitutions dans le monde et qui indique, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » C'est une idée nouvelle à l'époque, c'est révolutionnaire. Tous les hommes sont libres, tous les hommes sont égaux. Ils naissent libres et ils restent libres et égaux en droit. Liberté, égalité, fraternité. Et les femmes, alors ? Bah oui, parce que dans l'histoire, on oublie quand même la moitié de l'humanité, hein ? Les hommes naissent libres et égaux, mais les femmes, bah non. Eh bien, vous savez ce que fait Olympe de Gouges ? C'est inimaginable d'audace, de talent, d'intelligence et d'esprit révolutionnaire, et de soif pour la liberté et l'égalité. Écoutez bien, parce que je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette déclaration reprend bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, écrite 2 ans plus tôt donc. Mais Olympe de Gouges réécrit cette déclaration pour l'appliquer aux femmes. Les thèmes sont ceux de la liberté, de l'égalité et de la justice. Olympe de Gouges y ajoute une conclusion pour encourager les femmes à se révolter. Les premiers mots de cette conclusion sont « Femme, réveille-toi ». Ce vibrant appel « Femme, réveille-toi » sonne comme un slogan féministe, parce que renverser la monarchie, le roi, donc la domination d'une classe sociale sur une autre, oui, mais renverser le patriarcat, donc la domination des hommes sur les femmes, presque personne n'y pensait à l'époque, ou en tout cas, personne n'osait y penser. Vous l'avez compris, Olympe de Gouges dénonce l'ordre établi. Mais elle propose aussi des réflexions et des solutions. Elle ne fait pas que critiquer ce qui ne va pas, ce qui est déjà énorme, hein. Elle ne se positionne pas comme victime. Elle dit « Bon, ça ne va pas, et voilà comment on peut le changer. » C'est une créatrice, c'est une visionnaire, c'est une femme absolument hors du commun, c'est une force de la nature. Et elle sème des graines dans la conscience collective. Femme, réveille-toi. Elle montre l'exemple et elle crée un impact chez d'autres femmes. Nous sommes au tout début de la Révolution qui, je le rappelle, est une période complètement chaotique qui dure 10 ans. Et que va-t-il se passer pour elle ? Est-ce qu'on va la laisser répandre, diffuser ses idées, à votre avis ? Eh bien non. Olympe de Gouges est considérée comme dangereuse avec ses idées. Elle dérange beaucoup de monde, elle se fait beaucoup d'ennemis. Elle est à contre-courant Et c'est fou parce que même au moment de la révolution qui représente un tourbillon de nouveautés, de nouvelles idées, elle a déjà un train d'avance. Elle va encore plus loin. Entendez bien cela, je le répète. La Révolution française est une révolution de classe sociale. Qui a des privilèges et qui n'en a pas, et les injustices que cela provoque. Mais la Révolution française n'est pas une révolution de genre. Il n'est pas question, à aucun moment, de remettre en question la domination des hommes sur les femmes et les injustices que cela provoque. C'est très, très important de comprendre cela. Le patriarcat n'est pas un système que l'on souhaite remettre en question au moment de la Révolution française. Et Olympe de Gouges dérange. Juillet 1793, 4 ans après le début de la Révolution, Olympe de Gouges est arrêtée à cause de ses idées et de son engagement. Elle est condamnée à mort. Le 3 novembre 1793, elle est guillotinée sur la place publique. Être guillotinée, ça signifie qu'on vous coupe la tête. C'est la Révolution, hein. Et vous voyez les Champs-Élysées à Paris? Oui, c'est beau. Vous visualisez l'Arc de Triomphe d'un côté? Eh bien, de l'autre côté, tout au bout des Champs-Élysées, mais de l'autre côté, il y a la place de la Concorde, avec un grand obélisque égyptien aujourd'hui, vous voyez. Eh bien, sachez que c'était là, hein, qu'avaient lieu les exécutions publiques. C'est sur cette place qu'on guillotinait les gens. Et c'est sur cette place, la place de la Concorde, qu'Olympe de Gouges est guillotinée. Et après, quel héritage? Elle est morte, mais ses idées survivent, non? Eh bien, on n'a pas fait d'Olympe de Gouges une héroïne, parce que les héros, ça se construit. La mémoire est perpétuée par ceux qui survivent. Et malgré le fait que ce soit une figure emblématique de la Révolution, du féminisme, Olympe de Gouges est presque inconnue. En fait, cela fait à peine une dizaine d'années. Allez, une quinzaine d'années que, personnellement, je commence à entendre parler en France d'Olympe de Gouges, mais je suis sûre que beaucoup de Français n'ont jamais entendu son nom. Ce n'est pas encore une figure si populaire, et c'est fou. En fait, on avait tout intérêt à la faire tomber dans l'oubli. Où sont les statues d'Olympe de Gouges dans l'espace public? Où sont les rues Olympe de Gouges? Où sont les films qui retracent sa vie? Où sont les œuvres, les tableaux qui la représentent? Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais je vous dis qu'il y en a peu. Et oui, c'est politique. Et oui, cela dit quelque chose de notre société. En fait, Olympe de Gouges a commencé à sortir de l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1950. Mais apparemment, elle est plus connue et étudiée dans d'autres pays que la France, comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Russie. Alors, d'autre part, en faisant des recherches pour l'épisode, j'ai appris qu'un film qui retrace sa vie vient d'être tourné en France l'année dernière et j'espère qu'il va sortir bientôt. Et ce sera le premier sur sa vie. Hein. Alors, je vais vous lire une citation d'Olympe de Gouges, écoutez. Elle a dit « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » J'explique. Il y a beaucoup de vocabulaire, hein. Comme toujours, la transcription et le vocabulaire expliqué sont dans votre abonnement Podcast Premium sur mon site internet. N'oubliez pas que je didactise ces épisodes pour que vous puissiez vraiment profiter pour en apprendre plus sur la France et la culture française, mais aussi pour apprendre le français plus rapidement. Donc, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Un échafaud, c'est une plateforme, comme une scène, sur laquelle monte le condamné à mort avant d'être exécuté, avant d'être tué. La tribune, c'est la plateforme, la scène sur laquelle un orateur monte. Un orateur, c'est une personne qui parle à un public pour qu'on l'entende bien. Il n'y avait pas de micro à l'époque, évidemment. Donc, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Donc, maintenant que vous comprenez le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Si une femme peut être tuée publiquement comme les hommes, alors elle doit pouvoir avoir le droit de parler publiquement comme les hommes. Parce que oui, on l'a empêchée de parler publiquement, par contre, pas de problème pour la guillotine. Libre, courageuse, insoumise, déterminée et intrépide. Intrépide, cela signifie qu'elle n'a pas peur du danger. Olympe de Gouges retrouve peu à peu son prestige et redevient la grande figure de la Révolution française qu'elle a été. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme en France. C'est l'une des premières féministes. Et je rappelle que la Révolution, ce n'est pas si vieux, hein. C'était il y a moins de 250 ans. Ça semble loin, mais sur l'histoire de l'humanité, non, ce n'est pas très éloigné de nous. Donc, elle est ce qu'on appelle un précurseur. Un précurseur, c'est une personne, homme ou femme, dont la pensée est nouvelle pour son époque. Une personne qui ouvre la voie à de nouveaux mouvements. Une personne qui aura une influence sur le futur. Mais attendez, dans la langue française, on dit généralement un précurseur pour parler d'un homme, mais aussi pour parler d'une femme. Et il serait peut-être temps de dire une précurseuse, non? Qu'en aurait pensé Olympe de Gouges, à votre avis? Elle aurait été d'accord avec cette idée? Et vous? Vous êtes d'accord avec cette idée? En 2016, c'est récent, hein, le buste, donc une statue en marbre d'Olympe de Gouges, a pris place, a été installée à l'Assemblée nationale. Et sous le buste, sur le piédestal, on peut lire, je cite, c'est une citation, « L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. » Fin de la citation. C'est un extrait de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et en fait, c'est la première fois que la statue d'une femme politique entre dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. 2016. On a du travail, hein? Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui souhaitent qu'Olympe de Gouges entre au Panthéon. En France, c'est au Panthéon, à Paris, que reposent les héros et les héroïnes de notre nation. Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, Simone Veil, Joséphine Baker ou encore Marie Curie sont au Panthéon. 76 hommes et 7 femmes. Il y a du travail. Oui. Plusieurs pétitions ont même été lancées pour qu'Olympe de Gouges entre au Panthéon parce qu'elle symbolise en effet de façon exemplaire les combats pour les droits des femmes. Mais pas seulement. Elle s'est aussi souciée, préoccupée, de la misère du peuple, des enfants nés d'un adultère qui étaient marginalisés à l'époque. Elle s'est aussi battue contre l'esclavage. Femme, française, citoyenne, humaniste, elle n'a pas arrêté de porter les valeurs de la devise de la République française, le destin d'Olympe de Gouges est hors du commun, mais aussi hors du temps. C'est un véritable symbole. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Olympe de Gouges devrait avoir sa place au Panthéon? Pour terminer, sachez qu'Olympe de Gouges n'est pas la seule femme révolutionnaire à s'être engagée en politique pendant la Révolution française. Est-ce que vous connaissez Théroigne de Méricourt, qui est surnommée l'Amazone de la Révolution française? Pareil, elle a été complètement oubliée, alors qu'elle a un destin absolument incroyable et que c'est une femme aussi hors du commun. Et il y a fort à parier qu'une toute petite minorité des Français la connaissent. Alors, Théroigne de Méricourt, que personnellement je ne connaissais pas non plus avant de travailler sur cet épisode, elle a participé à la prise de la Bastille, puis à la marche des femmes à Versailles en octobre 1789. Je pense qu'on pourra aussi en reparler dans un épisode. Et en 1792, elle a réclamé, écoutez bien, la création d'une armée de femmes, de guerrières, pour défendre la France, qui était alors menacée par les différentes puissances européennes, par les autres pays en Europe. Et il existe beaucoup d'autres personnages féminins qui ont marqué l'histoire de la France pendant la période de la Révolution française, et pas seulement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et combien ont été oubliées? Alors, pour terminer, je vous laisse sur cette citation d'Olympe de Gouges, dont je n'ai cité que le début et que je complète ici. Écoutez ces mots, je cite. « Femme, réveille-toi, reconnais tes droits. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? »